Crime et justice, la saga judiciaire de Midi Libre. Un récit écrit et raconté par François Barrère de la rédaction de Midi Libre.
Mai 1979, l'affaire Serge Saquet, une vengeance en pleine audience. En 1979, l'horreur s'abat sur le petit village de Cabestany, près de Perpignan. Christian Dabot, 3 ans, disparaît. L'enfant qui a été violé sera retrouvé mort une semaine plus tard. Son meurtrier, Serge Saquet, est un voisin de la famille. Un accusé qui nie les faits pendant son procès. Alors, le grand-père du petit garçon décide de faire justice lui-même. Vendredi 12 mars 1982, cour d'assises de Perpignan. Il est 18h et depuis 2 jours, dans cette salle comble et surchauffée, on juge un crime terrible. Le viol et le meurtre d'un petit garçon de 3 ans, Christian Dabot, enlevé à Cabestany 3 ans plus tôt, un vendredi après-midi de mai, alors qu'il jouait dans le jardin du pavillon familial. Dans le box, Serge Saquet, un père de famille de 43 ans, un voisin de l'enfant. Depuis le crime, la haine et la peur se sont abattues sur le département. Et ce jour-là, elle s'invite au cœur de la salle d'audience. Car soudain, au premier rang, un homme se dresse, armé d'un revolver. C'est le grand-père de Christian. Aveuglé par la vengeance, il n'a plus qu'une idée, abattre le bourreau de son petit-fils. Lorsque l'enfant a disparu le 11 mai 1979, vers 17h30, ses parents et le village ont tout d'abord cru à une fugue, ou pire, à un accident. Les deux petites filles qui jouaient avec lui dans le lotissement disent l'avoir vu s'amuser avec un chien que l'enfant a peut-être suivi. L'inquiétude monte vite. Dans la soirée, des dizaines de gendarmes, de pompiers et d'habitants quadrillent les alentours. En vain. Le samedi, ils sont 200 à fouiller les abords de la bourgade, avec une inquiétude qui monte. Et s'il s'agissait d'un rapt commis par une mère en mal d'enfant? Qu'elle nous donne vite des nouvelles de Christian, c'est tout ce que nous demandons, dit Henri, le père, 5 jours plus tard.
Qu'elle ne nous laisse pas une nuit de plus dans cette angoisse. Je vais devenir folle,
ajoute son épouse Marie-Martine, en larmes. Mais une semaine après la disparition, sur les indications d'un radiesthésiste, plusieurs membres de la famille sondent un ruisseau profond d'une 50aine de centimètres à 1 kilomètre de la maison des Dabot. Le corps de Christian est là. Étrange découverte. Le cours d'eau avait été sondé et ratissé dans les heures suivant la disparition. Avec d'autant plus de soin qu'Henri Dabot avait été intrigué de voir les traces de pas d'un enfant sur la berge. Le 21 mai, alors que se déroulent les obsèques de l'enfant, le village est glacé d'effroi. Le procureur de Perpignan révèle que Christian a été violé et étranglé et que son meurtrier l'a rhabillé avant de le jeter à l'eau. Dès lors, l'enquête prend une autre tournure. On cherche un criminel sexuel. Peut-être cet autostoppeur qui a violé une jeune femme près du village le jour même où Christian a disparu. Au cours du mois suivant, une 50aine de suspects sont successivement entendus alors que chacun a les nerfs à vif. Et les drames s'enchaînent. Fin mai, après avoir été placé en garde à vue, un homme de 22 ans, handicapé après un accident et fragile psychologiquement, se suicide, ne supportant pas d'avoir été soupçonné. La semaine suivante, pour les mêmes raisons, un employé de mairie de Perpignan saute depuis un pont et s'en sort avec les deux jambes fracturées. Le 7 juin, les enquêteurs convoquent tous les habitants ayant participé aux recherches pour recueillir et confronter leurs témoignages. L'un d'eux ne vient pas, ce qui se remarque. 10 jours plus tard, Midi Libre l'annonce à la une, Cabestany, c'était un voisin. Le 15 juin, les policiers ont arrêté dans un lotissement du village Serge Saquet, un père de famille de 43 ans employé à la DDE qui est passé aux aveux. Ayant vu Christian seul, cet homme renfermé à la personnalité fruste, déjà connu pour s'être exhibé devant des enfants, a ramené le petit garçon chez lui. Son propre fils, âgé de 15 ans, entend ensuite un cri venant de la maison. Il découvre son père, hagard, devant un débarras où gît le corps de sa petite victime.
« Mais qu'est-ce que tu as fait ?»«
Je crois que je l'ai tué. »
Débute alors une mise en scène et une conspiration du silence qui va durer un mois et à laquelle va participer l'épouse du meurtrier. Janine rhabille l'enfant pendant que son mari va participer aux recherches, donnant le change et masquant au regard de tous l'atroce vérité. Puis, au cœur de la nuit, avec son fils, il va porter le cadavre jusqu'au ruisseau où il sera retrouvé. Terrible mascarade, il lui enlève une chaussure pour imprimer des marques de pas dans la berge humide et suggérer une noyade accidentelle. Le couple est écroué. Le 25 juin, devant une foule hostile d'où fusent les appels à la peine de mort, le juge organise la reconstitution du crime à Cabestany. Surprise, Serge Saquet revient alors sur ses aveux, nie le crime et se mure dans le silence jusqu'à son procès.
« Je ne me gêne pas pour le dire. Je ne me cache pas. Ce n'est pas moi qui ai fait ça au petit Christian. »
déclare de sa voix rocailleuse cet homme qui s'est engagé à 18 ans dans l'armée et a fait la guerre d'Algérie. La police est formelle.
« Avec Saquet, nous avons parlé en catalan. »
vient raconter l'inspecteur Lorenz. Il nous a dit
« J'ai fait une bêtise, une très grosse bêtise. »«
Pourquoi avez-vous avoué ?» demande le président à l'accusé.
« J'ai dit oui, j'ai dit non, mais ce n'était pas moi. » Il n'arrêtait pas de me poser des questions. Et puis, quand j'ai avoué, ils m'ont battu.
Piètre défense, face au poids du témoignage que sa femme livre à la barre.
« Quand je suis rentrée à la maison, mon mari m'a montré le corps de l'enfant dans le débarras et m'a dit « J'ai fait avec lui ce que tu refuses de faire avec moi. »
Alors, face à ces horreurs et à cet accusé qui nie, et avant que l'avocat général ne requière, le grand-père de Christian décide de rendre sa propre justice en appliquant cette peine de mort que la France a abolie 6 mois plus tôt. Il se lève et brandit son arme vers le box.
« Mon petit, tu vas payer, ordure !»
4 policiers réagissent au quart de tour.
« Arrêtez-le, arrêtez-le !»
et parviennent à maîtriser ce petit homme désespéré tandis qu'on évacue l'accusé de toute urgence.
« Laissez passer, évacuez-le !»
Sur les bancs des avocats, les dossiers volent. Dans la salle, craignant un coup de feu, les gens se jettent au sol. Quand il sort du palais de justice pour se livrer aux policiers, les mains levées, le grand-père est applaudi par la foule. L'incident s'arrête là. Le lendemain, le procès reprend dans un palais de justice investi par des gendarmes et des policiers. Cette fois, la famille de l'enfant est restée chez elle, à la demande des avocats. Le public est clairsemé dans une salle d'audience à l'accès filtré. Mais 300 personnes se massent devant le palais de justice en attendant le verdict. Les avocats de la défense, menacés personnellement à plusieurs reprises, tentent de plaider le doute.
« Jurez, si vous n'avez pas la trouille, vous acquitterez Serge Saquet !»
lance maître Furbury. Après un délibéré d'à peine 1 heure, Serge Saquet, qui pleure sur son banc, est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il quitte le palais de justice couché au sol, à l'arrière d'une voiture banalisée, pour être protégé de la foule hostile qui attendait, la haine aux lèvres, de le voir sortir.
Midi Libre.
Midi Libre.
Les podcasts de MidiLibre.fr.